Bonjour à tous. La guerre en Ukraine au 11e jour de combat, la ville de Mariupol assiégée espère pouvoir évacuer les civils aujourd'hui. Dans le même temps, les craintes les plus vives concernent la ville d'Odessa. Le président ukrainien Zelensky avertit que les Russes se préparent à bombarder cette ville stratégique et principal port d'Ukraine sur la mer Noire. Nous ferons le point sur ces derniers développements dans un instant. Invité de ce journal, le général Vincent Desportes. La voie diplomatique est mince, mais elle est toujours active. L'Élysée annonce que le président Emmanuel Macron s'entretient en ce moment au téléphone avec Vladimir Poutine. L'entretien a débuté, précise l'Élysée. Parallèlement, Israël a entrepris une médiation entre la Russie et l'Ukraine. Et on apprend que le président turc, Erdogan, s'entretient également en ce moment au téléphone avec le Vladimir Poutine et réclame un cessez-le-feu urgent et général. Dans ce journal également, la Corse, où une manifestation est prévue cet après-midi après la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui à Paris. Une information judiciaire va être ouverte. Et puis en sport, le Grand Prix Moto GP du Qatar avec sur la ligne de départ le champion du monde français, Fabio Quartararo. Le temps du soleil, sauf sur le sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Ce sont des images terribles qui nous reviennent en mémoire. Les images des villes ukrainiennes dévastées et de civils pris au piège évoquent les sièges et les images de désolation de Grozny en Tchétchénie ou d'Alep en Syrie, détruites par les bombardements russes. La ville portuaire de Mariupol sur la mer d'Azov veut tenter aujourd'hui une nouvelle fois d'évacuer des civils. Le cessez-le-feu a été conclu avec l'armée russe, mais hier la trêve n'a pas tenu et les bombardements ont repris. L'armée russe concentre ses efforts sur Mariupol, assiégé. Frédéric Joly est le porte-parole français du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, dont les équipes sont sur place à Mariupol. Frédéric Joly explique à Delphine Evenoux que la guerre est en ville.
Une guerre en ville, c'est avant tout une immense détresse pour la population qui n'a de choix que de se terrer dans les caves ou alors essayer de fuir et s'exposer à des risques peut-être supérieurs à celui que de rester à l'abri. La dégradation se fait extrêmement rapidement parce que vous avez les destructions des infrastructures nécessaires à la survie, quand vous n'avez plus d'électricité, quand vous n'avez plus de carburant, quand toutes les pénuries finalement commencent à s'accumuler, eh bien les gens se retrouvent très rapidement dans une situation absolument intenable. Pour les équipes humanitaires et pour le CICR, en l'occurrence à Mariupol, il est logé à la même enseigne. Dès qu'il y a la moindre accalmie, eh bien l'idée c'est de pouvoir se déplacer, procéder à des évaluations et faire passer l'aide que l'on a pu réunir. On l'a fait à Mariupol toute la semaine, notamment avec de l'eau. On a pu livrer à l'hôpital des kits blessés de guerre pour essayer d'obtenir justement cet accès humanitaire. On est bien évidemment en contact aussi avec toutes les parties en conflit en regard du droit international humanitaire qui notamment vise à ce que les populations civiles soient épargnées.
Frédéric Joly, porte-parole français du CICR avec Delphine Evenoux. Sur le terrain, le rouleau compresseur russe est à l'œuvre, selon l'expression du chef d'état-major français des armées, Thierry Burkhard. Et ce matin, l'armée russe poursuit son offensive. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
La tenaille russe est en train de se refermer sur Kiev.
Oui, Kiev qui sent vraiment les combats se rapprocher autour d'elle et qui voit ses villes martyrisées. Mariupol, dont on parlait à l'instant, avec cet essai d'évacuation des civils qui se mettrait en place, un couloir humanitaire qui irait donc jusqu'à la ville de Zaporijja, environ 3 heures de route. Un cessez-le-feu temporaire aurait été négocié le long du trajet pour laisser la population passer en sécurité. Et ce que vit Mariupol, Kharkiv continue à le vivre après la contre-offensive qui a été lancée hier par l'armée ukrainienne pour reprendre position dans cette grande cité russophone de l'est du pays. Et puis Tcherniv au nord de Kiev, où le jour s'est levé ce matin sur un paysage de dévastation, selon les témoignages sur place. La stratégie russe, on le voit, c'est se concentrer sur ces villes symboles en ciblant de façon indiscriminée la population pour en faire un exemple et pour envoyer ce message à Kiev, ce message de se rendre avant de subir le même sort.
Et puis Claude, l'armée russe avance aussi notamment vers le sud stratégique.
Le sud stratégique avec un objectif, Odessa. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'affirme. Les troupes russes s'apprêtent à bombarder cette ville stratégique, principal port d'Ukraine. Un crime historique selon Volodymyr Zelensky dans une vidéo tout juste diffusée. On le voit en effet, l'armée russe en tentant de prendre Mariupol sur la mer d'Azov veut faire là la jonction entre les troupes séparatistes et les troupes russes qui sont dans le Donbass et celles qui viennent de Crimée. Tout ça pour continuer son avancée vers l'ouest, le long de la mer Noire, pour contrôler tout l'accès à cette mer et donc jusqu'au port d'Odessa. Odessa, c'est en gros à une cinquantaine de kilomètres de la frontière moldave. Odessa, dont les habitants se préparent aujourd'hui en dressant des barricades.
Claude Guibal, merci. J'ajoute que le pape François a déploré ce matin des fleuves de sang et de larmes coulant en Ukraine. Après l'invasion russe, il a demandé l'instauration de couloirs humanitaires. Dans le même temps, aujourd'hui, la ministre des Armées, Florence Parly, est en Roumanie pour rendre visite aux troupes de l'OTAN déployées non loin de la frontière de l'Ukraine. La France et la Belgique ont envoyé en urgence, après l'attaque russe, près de 800 militaires. Ils sont partis rejoindre les soldats américains sur une base de l'OTAN. Florence Parly avait annoncé cette semaine qu'elle irait voir les soldats déployés au plus près du conflit. Envoyée spéciale en Roumanie, Mathilde Dehigny.
La ministre des Armées, Florence Parly, doit atterrir ici sur la base aérienne de l'OTAN à Constanza. Elle saluera d'abord un millier d'hommes des différents pays sous mandat ONU déployés ici, car c'est l'armée française en qualité de nation cadre qui prend le commandement des forces de l'Alliance Atlantique en Roumanie. Florence Parly se rendra ensuite sur le camp de base des soldats français qui est en train de s'installer aux côtés des troupes américaines, hollandaises et roumaines. La France accueillera dans ses tentes les 250 militaires belges qui sont aussi en train d'arriver. Mais la majeure partie de la journée de la ministre française sera consacrée à l'aspect diplomatique et stratégique. Florence Parly et le chef d'état-major des armées seront reçus à Constanța par le président roumain Klaus Iohannis, qui a fait le déplacement avec son Premier ministre et le ministre de la Défense. Ils parleront du déploiement de l'armée française et des besoins de l'Ukraine en armes et en aide humanitaire. La base aérienne se trouve à 200 km de la frontière avec l'Ukraine.
Et au 11e jour de guerre, la voie diplomatique, si mince soit-elle, est toujours le seul moyen pour obtenir un cessez-le-feu. Et je vous rappelle les informations que nous avons apprises juste avant ce journal. Emmanuel Macron s'entretient avec le président Vladimir Poutine, tout comme le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'entretient avec le président russe pour demander un cessez-le-feu général et urgent. De son côté, Israël a entrepris une médiation entre la Russie et l'Ukraine. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a rencontré hier Vladimir Poutine. Peu de détails ont filtré sur le contenu exact des discussions. Bennett s'est ensuite entretenu au téléphone avec le président ukrainien Zelensky. Et aujourd'hui, il se rend à Berlin pour une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Sur place à Jérusalem, correspondance de Sami Boukifa de Radio France Internationale.
Naftali Bennett, juif religieux, ne conduit d'ordinaire aucune affaire officielle durant Shabbat, samedi, jour de repos dans le judaïsme. Mais face aux circonstances exceptionnelles, le premier ministre israélien s'est envolé vers Moscou dans la plus grande confidentialité. Il s'est entretenu avec le président Vladimir Poutine. Dès les premiers jours du conflit, c'est à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky que Naftali Bennett a tenté d'ouvrir un canal de négociation entre Kiev et Moscou. Mais ce dialogue a été sèchement rejeté par Vladimir Poutine, selon la presse israélienne. Cette fois-ci, cette nouvelle tentative diplomatique a été coordonnée avec Paris, Berlin et Washington. Selon plusieurs médias israéliens qui citent des responsables américains, l'initiative de Naftali Bennett est décrite comme naïve, voire préjudiciable. La Maison-Blanche a certes donné sa bénédiction pour cette rencontre, mais reste persuadée que Vladimir Poutine n'est pas prêt à négocier. Jérusalem, Sami Bourkifa, RFI pour France Inter.
Et puis ce matin, la France recommande à ses ressortissants de quitter la Russie en raison de liaisons aériennes de plus en plus rares. Sur son site internet, le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français et à leurs familles, dont la présence n'est pas essentielle, de quitter donc la Russie tant que cela est encore possible. Visa et Mastercard, les spécialistes américains des cartes de paiement, suspendent leurs opérations en Russie après l'invasion de l'Ukraine, ce qui pousse les banques russes à migrer vers le système chinois de cartes de paiement UnionPay. Enfin, Henri Proglio, l'ancien PDG d'Elf, a fait savoir qu'il ne renoncerait pas à siéger au Conseil consultatif international de Rosatom, l'agence fédérale russe de l'énergie atomique, dans une interview au journal du dimanche aujourd'hui. Le Royaume-Uni, de son côté, veut sanctionner plus durement les intérêts russes et le deuxième plus grand syndicat du pays a décidé de s'engager contre la Russie. Ses adhérents et plus largement tous les travailleurs sont appelés à boycotter les marchandises de Moscou. Leurs actions sont déjà visibles dans les ports où les cargaisons russes tentent de contourner l'embargo qui les frappe. À Londres, les précisions de Richard Place.
À Stanlow, dans le nord-ouest de l'Angleterre, on raffine du pétrole, mais pas celui du Sea Cod. Ce tanker allemand est arrivé à bon port, mais les dockers refusent de vider ses cuves. Le syndicat Unite affirme « les travailleurs ne déchargeront en aucun cas du pétrole russe, quelle que soit la nationalité du navire qui le livre. Le groupe indien qui possède cette raffinerie a réagi en précisant qu'il se conformait au cadre légal mis en place par Londres. Car il s'agit bien là d'un contournement de l'interdiction imposée par les autorités britanniques. Elles ont annoncé cette semaine qu'aucun bateau russe ne serait désormais accepté dans ces ports. Certains opérateurs essaient donc d'acheminer quand même cette cargaison en la transférant vers des embarcations étrangères. Il y a là une faille dans la décision du Royaume-Uni, une faille que pointent ses travailleurs et leurs syndicats, exigeant des ministres qu'ils la comblent très rapidement. Londres, Richard Place, France Inter.
Invité de ce journal, le général Vincent Desportes, ancien commandant de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po, et votre livre « Visez le sommet, devenez stratège » est à paraître début avril chez De Noël. Bonjour général Desportes.
Bonjour.
Comment analysez-vous le rapport de force en ce moment sur le terrain ?
Le rapport de force matériel et militaire, purement militaire, est bien évidemment à l'avantage de M. Poutine, d'autant qu'il a que l'armée soviétique russe, pardon, en est revenue à ses fondamentaux soviétiques. Le chef d'état-major des armées parlait ce matin de ce déluge de feu, et bien c'est exactement ça. L'armée russe, c'est de l'artillerie qui tire et des troupes qui avancent derrière et qui détruit sans discrimination aucune. L'histoire nous a appris que l'armée russe n'hésitait pas à détruire son propre pays et à laisser mourir ses propres citoyens quand il s'agissait de guerre. Nous devons nous rappeler notre histoire.
Alors, général Desportes, vous parliez du général Burkhard, le chef d'état-major des armées en France. Effectivement, dans une interview ce matin au journal Le Monde, il parle d'un rouleau compresseur risque qui va finir par vaincre l'Ukraine. C'est aussi votre avis ?
Bien sûr. Tant que nous, autant n'agissons pas, et nous n'agirons pas pour les raisons que chacun connaît, eh bien, il est évident qu'on est à un rapport de 1 à 5, de 5 à 1 ou de 6 à 1, avec des puissances de feu qui n'ont pas encore été toutes délivrées, en particulier l'aviation russe qui est très puissante est intervenue relativement peu. Donc il y a encore des capacités de destruction extrêmement considérables. Donc il est évident que les villes vont tomber les unes après les autres. Vous avez parlé tout à l'heure d'Alep, de Grozny. On se rappelle que quand M. Poutine veut prendre une ville, il la prend. Il a pris Grozny et Grozny a été détruite jusqu'à la racine. Alep, ça a été exactement la même chose. Donc il peut aller jusqu'au bout. Cet homme et reflète la barbarie la plus sauvage. Évidemment, il n'est plus de notre monde.
Qu'est-ce que vous voulez dire, général Desportes ? Poutine est capable de tout ?
Poutine est capable de tout. Il est capable de tout. Et dans tout, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été déployées. Il est à peu près évident qu'il a conservé des armes chimiques et qu'il n'a évidemment pas répondu aux attentes de la communauté internationale quand elles ont été bannies. Donc on peut s'attendre à ce qu'il les utilise et on peut s'attendre évidemment à ce qu'il utilise l'arme nucléaire tactique sur l'Ukraine. C'est dans la doctrine russe et pour les Russes, l'arme atomique est bien une arme d'emploi, une arme de la bataille, Et donc il peut le faire. Et donc il est effectivement capable d'aller jusqu'au bout. Il est dans un piège. Il ne peut pas perdre. Donc il ira jusqu'au bout. Et il faut qu'il s'empare de l'Ukraine, à qui il vient de dénier même l'existence en tant qu'État. Et il faut qu'il s'empare des richesses minéralières en particulier, qui sont très importantes en Ukraine.
Général Vincent Desportes, vous parliez de l'OTAN et la fermeture de l'espace aérien en Ukraine. Et ce matin, Charles Michel, président du Conseil européen dans Questions politiques, juste avant ce journal, a expliqué que l'OTAN a refusé effectivement cette fermeture de l'espace aérien pour éviter un risque de troisième guerre mondiale. Il n'empêche, on apprend que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce que les États-Unis travaillent activement en ce moment sur la possibilité d'un accord avec la Pologne pour fournir des avions à l'Ukraine contre des chasseurs F-16 américains. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations, de ce qui est en train de se préparer ?
Alors, écoutez, d'une manière générale, je dirais que c'est bien, mais que c'est largement insuffisant. C'est-à-dire qu'on agit, l'Amérique agit comme ça. C'est des paroles et des armes. Maintenant, il faut des paroles et des actes. L'Amérique et les États-Unis sont soi-disant le plus grand défenseur de la démocratie et des libertés. Il faut le montrer. Et puis, on vous avait dit tout à l'heure que les chars russes étaient à 50 kilomètres de la Moldavie. qu'est-ce que les États-Unis comptent faire pour que M. Poutine ne rentre pas en Moldavie, par exemple? Alors, sur le problème lui-même, on voit bien qu'il y a deux difficultés. La première, c'est que, faisant ça, ils demandent aux Polonais d'affaiblir leur propre défense, parce qu'ils sont habitués aux avions de type russe, et donc, pour que les pilotes basculent eux-mêmes sur un modèle américain, eh bien, ça prend du temps. Pour transformer un pilote, comme on dit dans le jargon militaire, bah, il faut des mois, c'est pas des journées. Et puis, je me pose quand même la question, nous savons aujourd'hui que la Russie détient la supériorité aérienne sur l'intégralité du territoire ukrainien, donc tout avion qui viendrait à décoller de Pologne avec des pilotes ukrainiens courrait la chance d'être, le risque plutôt d'être immédiatement abattu. Détruit. Donc un, c'est insuffisant, très insuffisant. Le silence de l'Amérique est étouffant au moment où la démocratie et la liberté sont attaquées.
Merci.
Et puis d'autre part, c'est plus ou moins réalisable. Je pense qu'il y a des problèmes techniques tout à fait importants.
Merci beaucoup, général Vincent Desportes. Merci à vous. La Corse, maintenant, toujours sous tension après la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. La famille du militant indépendantiste est suspendue à l'état de santé d'Ivan Colonna, toujours dans le coma. La famille a appelé hier à ce que la mobilisation en Corse soit relayée au-delà des cercles nationalistes et une manifestation est prévue aujourd'hui à Corte. Dans le même temps, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard s'est exprimé ce matin lors d'une conférence de presse à Paris. Bonjour Ariane Gris. Griselle.
Bonjour.
Et on en sait un peu plus sur les circonstances de la tentative d'assassinat.
Oui, le procureur vient d'expliquer comment Ivan Colonna s'était retrouvé seul avec ce détenu dit particulièrement surveillé. L'homme était chargé du ménage. Le surveillant lui a ouvert la porte de la salle de sport où se trouvait Ivan Colonna, qui était fermé à clé, comme le veut la procédure, puis est ensuite retourné se poster entre les deux ailes dont il avait la responsabilité. Les images de vidéosurveillance montrent le futur agresseur en train de changer un sac poubelle, puis d'un coup se jeter sur sa victime. 8 minutes de coups violents, de strangulation à l'aide notamment de sa poubelle et de serviettes, un acharnement, dit le procureur, qui laisse peu de doutes sur l'intention homicide. En garde à vue, le détenu a expliqué qu'Ivan Colonna avait à plusieurs reprises, selon ses termes, craché sur Dieu. L'analyse des images est encore en cours pour essayer de déterminer ce qui a provoqué précisément ce passage à l'acte de mercredi par cet homme qui, selon d'autres détenus, tenait régulièrement des propos qui témoignaient toujours de son adhésion à un islam radical, lui qui a été arrêté en Afghanistan en 2014. Quant à l'état de santé Ivan Colonna, le procureur national antiterroriste vient de préciser que son pronostic vital est à ce stade toujours considéré comme engagé.
Ariane Griessel, merci, avec Julien Girard. Un mot de sport avec le premier Grand Prix MotoGP au Qatar cet après-midi. Et le pilote français Fabio Quartararo, champion du monde en titre, va tenter de conserver son titre cette saison. Fabio Quartararo, jeune pilote de 22 ans, surnommé El Diablo, a clairement changé de statut ces derniers mois. Égérie d'une marque de vêtements, Quartararo est aussi adulé du grand public et plus seulement des fans de la moto. Aujourd'hui, le pilote niçois est une star de la moto, Kevin Blondel.
Ah, il suffit de se rendre dans un magasin de moto pour s'en rendre compte. John travaille dans une boutique de Nice. Il n'avait jamais connu ça pour aucun pilote français avant.
Au niveau des Niçois, on le voit, hein, l'intérêt qu'il y a sur les produits, sur les casques, les trucs comme ça. Enfin voilà, même les stickers. Ça. Des personnes qui nous appellent pour savoir si on a les casquettes, si on a les t-shirts. Ouais, est-ce que vous avez le casque de Quartararo? Enfin, il a des groupies. Clairement, il a des groupies. Moi, par exemple, j'ai son casque. J'ai pu me le faire dédicacer par lui. On a même pris la petite photo et tout.
En entendant parler de Fabio, le Niçois Damien a les yeux qui brillent.
Le fait qu'il ait fait cette saison-là et qu'il ait fini champion du monde. C'est vrai que vraiment j'avais jamais regardé, j'avais regardé quelques courses mais sans plus. Et là j'ai vraiment suivi toute la saison et je suis devenu un petit fan entre guillemets.
C'est effectivement la force du phénomène Quartararo, reconnaît John, faire aimer la moto à des gens qui n'avaient jamais vu un Grand Prix de leur vie.
Tout le monde s'y intéresse, moi je vois ne serait-ce que ma femme qui s'intéressait pas nécessairement au GP. Le fait qu'il soit niçois déjà, c'est une petite fierté et effectivement on commence à s'y intéresser. Je veux dire, moi elle commence à regarder les GP avec moi, elle essaye de comprendre machin. Ou même les personnes plus âgées, mes parents en l'occurrence, qui au final ont entendu parler de Quartararo et qui commencent à m'en parler.
Autre preuve de la Fabio-mania, en 2 ans, les audiences télé ont plus que doublé sur les Grands Prix. Celui du Qatar l'an dernier a été suivi par plus d'1,5 million de Français. Ce sera sans doute encore plus cet après-midi.
Et Fabio Quartararo, qui a signé le 11e chrono hier, s'élancera en 4e ligne, départ à 16h. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
Deux zones où l'ambiance sera plus sombre qu'ailleurs cet après-midi. Des Alpes du Sud à la Côte d'Azur avec des averses, de neige à partir de 700 mètres, puis de la Garonne aux Pyrénées où le ciel va rester assez maussade avec là aussi de la neige à partir de 1000 mètres. De la Bretagne au nord de l'Aquitaine, les pluies matinales s'estompent et les nuages se dispersent. Ailleurs, le soleil l'emporte largement dans des températures un peu plus fraîches qu'hier, les maximales s'orientant entre 8 et 10 degrés sur les deux tiers nord et 10 à 14 de l'Aquitaine à la Méditerranée. La nuit prochaine, retour de gelée généralisée, 0 ou moins 3 en général, jusqu'à moins 6 dans l'Est. Ensuite, du soleil sous un ciel un peu plus nébuleux près des Pyrénées et des Alpes du Sud à la Côte d'Azur. Mais il faudra souvent composer avec un vent d'Est désagréable et frais.
Jean-Michel Golinski de Météo France.